Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. C'est un vrai plaisir. Je viens d'Allemagne, c'est pourquoi le français n'est pas ma langue maternelle, mais on va se comprendre. Tout à l'heure, on a chanté que le Seigneur nous attire ou nous sommes invités à être attirés à lui. Et je pense que c'est pourquoi nous sommes là ce matin, parce que à un moment donné dans notre vie, dans notre existence, le Seigneur nous a attirés et il nous attire encore. Et je voudrais partager avec vous quelque chose qui m'a touchée profondément dernièrement. Et il y a 2 semaines, donc il n'y a pas très longtemps, on m'a invitée à assister à une rencontre Zoom en hommage à un ami qui est décédé il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré cet ami à Paris et il est décédé à cause d'une maladie qui l'a paralysé de plus en plus. Et les gens ont partagé des témoignages à son égard, des témoignages touchants, des petites histoires qu'ils avaient vécues avec lui. Et un des témoignages m'a particulièrement touchée. Cet ami travaillait à la Sorbonne, à Paris, dans la maintenance des immeubles. Et c'était quelqu'un de très fidèle et intègre dans son travail et dans ses relations. Et ses collègues l'ont remarqué tout de suite, il était très très apprécié. Et il était toujours au service des autres, il avait une oreille pour tout le monde. Et sa hiérarchie pouvait aller dormir si elle lui confiait une mission. Et il accomplissait ses missions avec fidélité et intégrité. Il n'était pas parfait, vous l'avez compris, mais il avait cette idée, voilà, je veux être intègre. Et lorsqu'il tombait gravement malade, il avait des rendez-vous chez le kiné tous les mercredis. Et tous ses collègues, pour exprimer leur appréciation et leur solidarité, l'ont accompagné tous les mercredis à ce rendez-vous chez le kiné. Tous les mercredis, toute l'équipe était là avec lui. Et ça m'a vraiment touchée, cette marque de solidarité. On est avec toi dans la maladie. On sait que tu vas mourir, mais on veut être avec toi, à tes côtés. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre homme, lui aussi un homme frappé par la maladie. Lui, en revanche, il est méprisé et abandonné des hommes dans sa douleur, dans sa maladie. Oui, c'est un homme de douleur et habitué à la souffrance. Et face à lui, face à sa souffrance, on se détourne de lui. On n'est pas avec lui. Il n'est pas estimé, il est méprisé, mais il est intègre. Lui aussi, c'est un serviteur au service des autres. Il est sensible à la douleur de l'autre. Il ne prise pas le roseau qui ploie. Il n'éteint pas la mèche qui vacille. Il est là pour épauler, pour encourager, pour relever, pour accompagner. Et quelle sensibilité à une mèche qui vacille, à un roseau qui ploie. Il n'y a pas de cas désespéré pour lui. Il voit de l'espoir dans la vie d'une personne où plus personne voit de l'espoir. Et il n'a pas besoin de crier dans les rues ou d'élever sa voix pour être entendu. Aujourd'hui, juste pour ouvrir une parenthèse, on doit crier pour être entendu. Et c'est lui qui crie le plus fort, souvent, remporte la victoire. C'est un peu le ton des extravertis, n'est-ce pas? De ceux qui savent se vendre et se mettre en avant. Mais ce serviteur, il est différent. Il ne crie pas dans la rue. Il est là. Il est qui il est. Et le prophète Ésaïe, j'ai cité quelques passages du prophète Ésaïe qui vit au 8e siècle. Il brosse le tableau de ce serviteur. Il dit qu'il est le serviteur du Seigneur. c'est-à-dire le serviteur appartient au Seigneur. Donc, qui est ce Seigneur dont il parle? Et là, j'aimerais revenir au livre de l'Exode, où on dit que c'est le Seigneur qui est compatissant, clément, long à la colère, qui pardonne, qui garde sa bonté envers l'humanité et qui ne se compromet pas face au mal. Il est intègre. Son serviteur, lui, il prospérera. Et le prophète Ésaïe brosse le tableau de ce serviteur au chapitre 52-53. Et je m'imagine que vous connaissez ces chapitres-là. Je vous invite donc à prendre le texte biblique et à regarder, à rencontrer ce serviteur. Ésaïe 52-53. Et au chapitre 52, à partir du verset 13. Et là, le livre d'Ésaïe déclare « Mon serviteur prospérera. Il s'élevera, il montera, il sera très haut placé. » Donc, il a de la valeur. Il est mis en relief. Il est très haut placé aux yeux du Seigneur. Mais ce qui suit, le texte qui suit, choque. Le serviteur souffre. Et là, je cite une partie d'Ésaïe 53, le chapitre qui suit, le verset 2, où le texte dit « Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui de qui on se détourne, il était méprisé, nous ne l'avons pas estimé. Regardez l'attention dans le texte. Quelqu'un qui est haut placé, qui s'élève, qui est élevé. Mais là, quelqu'un qui est méprisé. Qui est donc le « nous » qui fait son entrée dans le texte ici, le « nous » Nous ne l'avons pas estimé. Son aspect n'avait rien pour nous attirer. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions. Et là, le texte poursuit et parle d'un conflit d'interprétation que je trouve très intéressant. Un conflit d'interprétation, une autre tension dans ce texte. Au sujet du serviteur, et ce conflit d'interprétation, il est mis en scène par le texte. Parce que, voilà, il y a le « nous » qui interprète. Ce que le « nous » voit, ce que nous voyons. Le verset 4. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Nous interprétons. Le nous interprète la douleur du serviteur comme suit. Cet homme de douleur, méprisé et abandonné, doit être frappé par Dieu, atteint d'un fléau, quelqu'un de maudit. Il souffre à tel point qu'il est maudit, il doit être maudit. Et ça, c'est la voix prophétique qui doit corriger cette perception faussée des choses. Non, cet homme, verset 5, lui, il est transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. L'apôtre Pierre reprend cette déclaration. Je pose donc, qui est ce « nous » dans le texte? Ce « nous » a déjà fait son entrée dans le texte du livre d'Ésaïe avant. Ce n'est pas la première fois dans le texte que le « nous » apparaît. C'est au chapitre 9. Où le « nous » apparaît pour la première fois. Au chapitre 9, le texte dit, Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Cet enfant, si on a une lecture chrétienne du texte, cet enfant, ce fils, est un don du Seigneur à l'humanité. Il nous est donné. C'est donc à nous. Cet enfant. Et le chapitre 9 décrit cet enfant, c'est le prince de paix, c'est le nouveau David, c'est le roi par excellence. Et là, au chapitre 53, le texte dira, « Et nous ne l'avons pas estimé. » Ce cadeau, non, on n'en veut pas. Nous le pensions frappé par Dieu à tant d'un fléau. Mais lui, il est venu pour nous. De retour dans Ésaïe 53, verset 2, le texte dit, « Il s'est élevé comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. » Un rejeton, une racine qui sort d'une terre assoiffée, une terre assoiffée. C'est une terre qui meurt. Donc ce serviteur, il apporte la vie. Et d'ailleurs, dans la pensée biblique, ce n'est pas anodin ici. Parce que la rupture de Dieu et l'humanité, ou entre Dieu et l'humanité, cette rupture qui est là, qui est brisée, provoque un désert, des épines et des ronces. Pensez au premier exil de l'humanité, après la rupture de confiance entre Dieu et l'humanité. L'humanité doit sortir du jardin d'Éden, elle se trouve en exil. Et tout d'un coup, il y a des conséquences, des épines, des ronces, à la sueur de ton front. Voilà, une terre assoiffée. Et là, il vient. Il est comme une racine qui apporte la vie. Il se lève comme un rejeton, comme une racine. Il nous apporte la vie en naissant dans notre réalité assoiffée, affamée, déchirée. Et chacun d'entre nous est tiraillé, doit faire face à cette réalité ambivalente, brisée, dans laquelle nous vivons. Et le texte dit, non, 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 il était transpercé à cause de nos transgressions. Il était écrasé à cause de nos fautes. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Donc ce prince de la paix, le fils qui nous est donné, c'est sur lui qui tombe la correction qui nous vaut la paix. C'est quelqu'un qui se donne librement et le « nous » revient. Le « nous » traverse ce chapitre 53. Parce que regardez au verset 6. « Nous étions tous errants, comme du petit bétail, comme des moutons, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Ah oui, nous avons tous des propres voies. On aspire tous au salut, à une vie épanouie. Et là, on cherche, on est en quête, on suit sa propre voie. Et le texte suit, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous. Et en fait, le serviteur est quelqu'un comme nous. Il est un frère, un d'entre nous. Parce que nous sommes comme des brebis égarées, comme des moutons égarés, et lui, dans le texte de Ésaïe 53, il est aussi une brebis. Voilà, semblable au mouton, à la brebis que n'ouvre pas sa bouche. Il n'a pas ouvert sa bouche, semblable au mouton qu'on va mener à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Lui aussi, il est un d'entre nous. Il n'a pas ouvert la bouche. Ça rappelle l'autre texte. Il n'a pas crié dans la rue. Il a vécu, il était là, comme référence ultime, avec son antiquité. Et d'ailleurs, la bouche, dont le texte revient quelques versets plus loin, au verset 9, parce que Ésaïe précisera, il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche, il était intègre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Coûte que coûte. Il n'a pas commis de violence, non, il est le prince de la paix, il apporte la paix et la vie. Et le texte précisera après, au verset 11, que cet homme, ce serviteur, aura une postérité. Ce qu'il fait n'est pas anodin. Ce qu'il fait a une conséquence, a un avenir. Parce qu'il y aura une postérité. Le verset 11, « Mon serviteur, le juste, apportera la justice à la multitude. » Il y a une multitude qui est mise en scène par le texte. Et le serviteur apporte la justice. Et le verset 12, le dernier verset de ce chapitre dira, ce serviteur Il intercède pour les transgresseurs qui le percent et qui l'écrasent. Il intercède. Il est là pour eux. Il y a des gens qui le tuent. Il est tué, mais il intercède pour ceux qui le tuent. Il est au service de l'humanité, librement. Il est le serviteur par excellence, le serviteur des serviteurs. Et il a emprunté la voie royale, celle du service en faveur de l'humanité. Et c'est finalement le don de soi, sans qu'il n'ait jamais perdu son identité et sa liberté intérieure, ancrée profondément en son Père. Ce Seigneur, il est libre. Il donne sa vie librement. Et là aussi, il est serviteur. Un serviteur, il n'est pas le jouet de l'autre. Il sert librement. Et le verset 12 va souligner, « Il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est dépouillé jusqu'à la mort. » En toute liberté. Il s'est donné librement, par amour pour nous. Et nous avons lu le texte dans le Nouveau Testament qui fait allusion à ce texte. 1 Pierre 2, et là, Pierre parle du Christ. Les auteurs du Nouveau Testament font un lien explicite avec le Christ. Et ce texte par le prophète Ésaïe. Le Christ, le Messie, le nouveau David sur le trône de David. Et je vais citer un seul verset de 1 Pierre 2, des versets 21 à 25. Le verset 25. « Car vous étiez des moutons qui s'égaraient. » Citation d'Ésaïe 53. « Mais maintenant vous êtes retournés vers celui qui est votre berger et votre protecteur ou gardien. » C'est une belle phrase. On peut retourner vers celui qui est notre berger et notre gardien, notre protecteur. Le Messie, le Christ, Jésus est notre berger et notre gardien. Et nous pouvons retourner à lui à chaque moment. Il est ce Fils qui nous est donné, qui est là pour nous, à qui on peut souffrir sans devoir avoir peur. Il est digne de confiance, il est à l'écoute de tout être humain, il s'est engagé à l'égard de tout être humain. Et je sais que ce serviteur souffrant, ce Fils qui nous est donné, ce berger et ce gardien dont parle Pierre, a bouleversé et imprégné des milliers de vies humaines à travers les siècles de l'histoire humaine. C'est comme un ancre pour l'humanité. Et je pense que ce serviteur par excellence a également bouleversé la vie de cet ami qui est décédé, dont je vous ai parlé au début de cette réflexion, qui lui-même est devenu un serviteur en faveur des autres, à l'égard de ses collègues qui en étaient bouleversés à leur tour. L'amour qui se donne librement, il bouleverse. Un serviteur loyal au serviteur des serviteurs, grâce au serviteur qui donne sa vie. Et ce serviteur a des fils et des filles qui lui appartiennent, qu'il justifie, qui lui suivent grâce à lui, grâce à ce qu'il a fait et fait pour eux. Et je pense que ce texte de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament nous invite à réfléchir, à nous positionner face à ce serviteur souffrant. Ce texte, il nous parle, il vient de l'Antiquité. C'est vrai, il y a une distance culturelle, une distance temporelle avec ce texte et nous, au 21e siècle. Mais quand même, ce texte parle. Est-ce que moi, je suis prête à corriger mon interprétation face au serviteur qui donne sa vie pour moi? Est-ce que je suis prête à corriger mes idées à l'égard du serviteur? Est-ce que moi, je vois la beauté du Seigneur en la personne du Messie pour moi? Est-ce que je vois la beauté dans le service? Est-ce que moi, je vois ce qu'il souhaite faire au sujet de mes transgressions, de mes naufrages moraux qu'il a portés? Est-ce que moi, je suis prête à suivre cette voie royale du service grâce à lui, parce que j'appartiens à lui? Et le texte de Pierre, il est fort. Quand il était insulté, il ne rendait pas l'insulte, c'est fort. Ou quand il souffrait, il ne proférait pas de menaces, c'est fort. Ou mais il se remettait à celui qui juge justement. Et ma vie, quand je suis insultée, qu'est-ce que je fais? On est tous humains, on est d'accord. Est-ce que j'ai aussi cette vision, il y a quelqu'un qui me voit, qui voit mon histoire, ma biographie, et qui est mon juge? Est-ce que j'aime en retour? Est-ce que je continue d'aimer en retour? Quand je suis blessée, quand je regarde dans ma vie, il y a du progrès à faire. Mais je ne désespère pas, parce que je veux que le Seigneur fait en moi pour que cet amour voie le jour réellement. Et ma loyauté envers lui. Est-ce que moi, je souhaite être loyale envers lui? Lui suivre en toute dignité, en toute liberté, coûte que coûte. Ma loyauté, moi qui fais partie du nous, et sa loyauté à mon égard. Nous savons que la contre-valeur du texte d'Ésaïe 53, c'est la venue réelle du serviteur sur notre planète. Le serviteur, Dieu, il s'est exilé lui-même. Il est parti en exil et il savait ce qui l'attendait. Il n'a pas eu peur d'être blessé par nous. La peur d'être blessé par nous ne l'a pas pétrifié ou paralysé. Il n'a pas eu peur d'être remis en question. C'est un Dieu qui n'a pas peur d'être remis en question, d'être défiguré par nous. Son amour pour nous était plus fort que la mort et les insultes blessantes. Il n'a pas ployé, il n'a pas vacillé. Il a tracé sa route avec une liberté et une force que personne n'a pu lui enlever. Il n'a pas évité la souffrance, non. Il a fait ses preuves. Et c'est pourquoi je pense qu'il est digne de confiance. Il est digne de confiance. Et la vie et l'amour sont axés sur la confiance et sur la liberté. Et dans ce monde brisé, et là j'ai envie de citer une auteure, je cite, « D'un point humain, la vie est pour chacun de nous un chemin vierge, dans lequel, en ce qui concerne nos expériences les plus profondes, nous marchons seuls. Aucun être humain peut pleinement partager notre vie intérieure. » C'est une citation forte. « Aucun être humain peut pleinement partager notre vie intérieure. » Et souvent, nous attendons de l'autre de partager et de comprendre notre vie intérieure, d'être là pour remplir le vide criant de notre solitude. Et en fait, nous demandons à un être humain de ce qu'il ou elle ne peut jamais accomplir. Être un être humain brisé, c'est ça, c'est un chemin vierge. Mais c'est le Seigneur, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui connaît notre vie intérieure, qui connaît les dernières abîmes de notre cœur, qui aspire à lui, on aspire à quelqu'un comme lui. D'où l'importance et l'invitation à retourner vers celui qui est notre berger et notre protecteur. Nous pouvons placer notre confiance sans devoir craindre d'être trahi. C'est une bonne nouvelle. Personne n'est aussi proche de chacun d'entre nous que lui. Il peut lire les dernières abîmes de nos cœurs humains Il peut nous sauver et restaurer, et il peut remettre les miettes de nos vies prisées. Le mal a fait ses ravages dans la vie de chacun d'entre nous, et il peut nous guider à travers les vallées existentiellement éprouvantes dans ce monde brisé. Et je suis convaincue qu'il a frayé un chemin où tout être humain peut marcher avec lui, en toute dignité, libre, attaché à lui, attaché au Seigneur, le serviteur des serviteurs. Le service en faveur de l'humanité, servir l'autre avec maturité et dignité et en toute liberté, est la voie royale que le Messie a empruntée parce qu'il nous aime. Parce que lui aussi, il est attaché à nous, à chacun d'entre nous. Donc que Dieu nous garde, qu'il reste notre berger et notre gardien. Amen.